Bonjour. Qui d'entre vous fait du sport, de l'exercice régulièrement? Levez-vous, s'il vous plaît. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas debout ne font aucun exercice, on est d'accord? Non? Ah, il y en a qui se lèvent, du coup. Ok, ben vous pouvez vous rasseoir. Alors, c'est très bien. De quoi vais-je vous parler ce matin? Quand on fait de l'exercice, c'est pour être en bonne santé. Ah, au fait, j'étais debout aussi, moi, hein, dans le... Quand on fait de l'exercice, c'est pour être en bonne santé, n'est-ce pas? Personnellement, je fais de la natation et il n'y a absolument aucun intérêt à faire de la natation dans une piscine parce qu'on voit les carrelages blancs du fond de la piscine pendant une longueur et après, on voit exactement les mêmes et dans l'autre sens, ce qui ne change absolument rien à la longueur suivante, etc. Ça n'a aucun intérêt sinon celui d'être en bonne santé ou en meilleure santé, d'avoir plus d'énergie pour faire son travail, pour vaquer à ses occupations, d'avoir la forme, comme on dit, pour aller et venir à sa guise, ou pour faire ce qu'on a envie de faire. Pour se sentir mieux aussi, on fait de l'exercice. Et je vois que je ne suis pas seul, un certain nombre d'entre nous font de l'exercice. Eh bien, l'exercice, c'est un peu une question de puissance. Je m'explique. Le mot en français « puissance », c'est ce que je puis faire. C'est la même racine. C'est ce que je peux faire. Augmenter la puissance, ça veut dire élargir le champ des choses que je peux faire. C'est l'idée de la capacité. Quand je fais de l'exercice, c'est pour augmenter mes capacités physiques, pour pouvoir monter un escalier plus facilement, ne pas être essoufflé en haut, pour pouvoir, etc., etc. De la même manière, quand j'apprends une langue étrangère, c'est pour pouvoir dialoguer avec plus de personnes. Quand j'apprends le droit des associations, au hasard, c'est pour pouvoir organiser des activités de la bonne manière. Quand j'apprends le solfège, c'est pour pouvoir faire de la musique de mieux en mieux. Le sujet de ce matin, c'est l'expression de soi, l'épanouissement, peut-être l'ambition même, avoir plus de puissance. Je sais que je suis en train de vous inquiéter. Vous êtes en train de vous dire, Jean-Marc, qu'est-ce qui lui arrive? Dans ma Bible, au verset 10 de l'épître de Paul aux Éphésiens, il est écrit, dans ma traduction, Nouvelle Bible Second, « Soyez puissants dans le Seigneur ». Soyez puissants. Cette idée, elle est d'honorer par notre puissance, et nous reviendrons sur ce terme, par nos capacités, ce Dieu qui nous a fait. Ce Dieu qui nous a donné le corps, qui est capable de faire ceci ou cela, d'honorer ceux et celles qui nous ont donné la vie, nos parents, ceux et celles qui nous ont enseigné, nos professeurs, etc. Pour un professeur, c'est très encourageant de voir son élève aller faire preuve de toute la connaissance que ce professeur a enseignée. Eh bien, pour le Créateur, qui est notre Dieu, c'est une joie de voir que nous mettons à profit tous les dons qu'il nous a faits, qu'il nous a fait dans notre être. Il n'y a là aucune position orgueilleuse. Il s'agit simplement d'exprimer ce que l'on a en soi. Cela ne veut pas dire être meilleur que les autres. Développer ses capacités ne veut pas dire qu'on les utilisera pour dominer. Éphésiens 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine. Ou bien, traduction de chez Bayard, galvanisez-vous, ça m'a amusé cette traduction, et donc celle que je vous ai lue il y a un instant, soyez puissants. C'est cette idée que Paul adresse aux Éphésiens pour terminer sa lettre. C'est en effet, soyez puissants ou fortifiez-vous, c'est avec cette idée qu'il va terminer la lettre, même si la fin intervient quelques bons versets plus loin. Paul donne un dernier conseil avant de s'interrompre. Paul dit quelque chose d'important avant de partir, avant de laisser ses lecteurs. Fortifiez-vous. Assez naturellement, nous prenons cet ordre comme un genre d'exercice imposé. Fortifiez-vous. A priori, ça ne me tente pas beaucoup d'être de ce texte-là. J'ai pas trop envie de me fortifier comme ça, comme si c'était une obligation religieuse. Vous devez être fort, comme si dont l'utilité ne va pas me sauter aux yeux. Et c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure qui faisait de l'exercice, parce que c'est assez comparable. Aujourd'hui, ça fait bien. Je suppose que vous et moi, qui vous êtes levés pour montrer que vous faites de l'exercice, vous étiez fiers de vous lever. Soyons fiers aussi de l'exercice de la peine que nous nous donnons pour être forts spirituellement dans le Seigneur. Être en forme, c'est bon pour moi physiquement. Être en forme, c'est bon pour moi du point de vue spirituel, du point de vue de l'être intérieur. Être en forme à l'intérieur, c'est aussi bien que d'être en forme à l'extérieur. Et je vous pose 3 questions ce matin. Ça sert à quoi de se fortifier? Comment se fortifier? Et quels sont nos gênes, nos difficultés pour nous fortifier? Je n'ai lu que ce petit verset du chapitre 6, verset 10, mais je vais aller puiser dans les versets qui suivent jusqu'au verset 17 ou même 19 ou 20, enfin en gros jusqu'à la fin de la lettre, pour trouver des réponses. Ces réponses, c'est Paul qui va les donner, Paul lui-même qui va les donner. Pourquoi nous fortifier? Ok, on a compris que de faire de l'exercice, c'est bon pour la santé, et puis voilà, on vivra mieux si on fait de l'exercice. Comprenons-nous que faire de l'exercice, entre guillemets, nous fortifier intérieurement, c'est également bon pour nous. Verset 11, en fait je vais lire la suite du verset 10. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine, revêtez toutes les armes de Dieu afin... Écoutez bien, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Il faut être en forme, spirituellement, intérieurement, pour tenir bon. En effet, le monde dans lequel nous vivons est beau, certes, mais il est aussi très compliqué, il peut être très dur, et le diable y agit puissamment. En tant que chrétiens, nous vivons dans ce monde, nous sommes des citoyens, des voisins, des amis, des collègues, des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des cousins. Mais nous vivons dans ce monde sans pour autant céder aux sirènes de la violence, de l'égoïsme, des courants de pensée parfois pernicieux. Étienne faisait allusion à quelque chose, quelques stands à la Foire Expo, ou de toutes sortes de mouvements de l'âme qui oublient ce qui fait pour nous notre essentiel, Dieu. Comme l'a dit Jésus dans sa prière, vous savez ce qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière du grand prêtre qu'il est, lorsqu'il priait pour les croyants, les fidèles que nous sommes, il a bien souligné que nous vivons dans ce monde, mais que nous n'en faisons pas vraiment partie, appartenant au peuple saint, au peuple de Dieu. Il ne s'agit pas de s'opposer à tout parce que nous sommes chrétiens, de conduire, je ne sais pas, d'une manière de conduire à gauche parce que tout le monde conduit à droite, mais de marquer une différence, à assumer, à oser et de tenir dans cette différence, d'oser être différent quand notre conscience nous conduit à l'être. Donc ce monde, oui, est beau et dur et nous devons y tenir notre position de chrétien et de chrétienne. Paul parle dans ce texte des manœuvres du diable. La meilleure description des manœuvres du diable me semble se trouver dans les évangiles, au début de l'évangile de Matthieu en particulier, ce texte qu'on appelle la tentation. Vous savez, quand Jésus se trouve au désert, dans le désert, et que Satan vient le tenter. Il y a trois tentations qui sont faites. Matthieu chapitre 4. La première des tentations est la suivante. Le tentateur vient lui dire « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Jésus a répondu « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce texte magnifique donne des ficelles, révèle les ficelles du diable. La première des tentations, c'est la tentation de réduire notre vie au domaine matériel et physique. Et on le voit aujourd'hui, un monde dans lequel les gens ne vivent souvent que dans ce domaine. Avoir un nouvel appareil, manger telle ou telle chose, vivre telle ou telle chose, tel loisir, pouvoir aller... j'aime bien avoir des appareils qui marchent, j'aime bien manger, j'aime bien les loisirs, hein, c'est pas la question. Mais si ma vie n'était que cela, que d'aller se promener dans les Vosges, je sais les Vosges sont magnifiques, mais quand même, ce serait très, très réduit comme vie. Il y a le Cap Vert. N'est-ce pas? Et la Martinique aussi, bien sûr. La première tentation que Satan a dans ce texte, c'est de faire en sorte que nous ne pensions pas du tout à ce qui dépasse nos sens, à ce que nous soyons réduits à cette existence matérielle, physique, quotidienne, et que notre monde s'arrête là. Si c'est ça, le diable a réussi son coup. Nous n'aurons plus cette élévation de l'âme, cette grande question qui dit d'où je viens et peut-être que ce Dieu, ce Créateur existe et que je peux entrer en relation avec lui et peut-être que la Bible me dit quelque chose là-dessus et si je la lis, peut-être qu'elle me donnera des réponses. Toutes ces choses-là, la première tentation essaye de les gommer. La deuxième tentation, tentation de l'égoïsme. Le diable, verset 5 du chapitre 4 de Matthieu, le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » La tentation de l'égoïsme allant jusqu'à mettre Dieu à notre service. Et Jésus a répondu « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Bien sûr, nous avons un Dieu dont la miséricorde, la patience, la grâce sont sans limite. Mais n'élaborons aucun système qui profite de cela pour faire n'importe quoi de nos vies. Troisième tentation. Verset 8. Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Satan voulait flatter là l'orgueil de Jésus en le poussant en attisant sa soif de pouvoir immédiat. Mais ça n'a pas marché, Jésus a renvoyer Satan à ce moment-là. Les trois tentations, les trois ficelles de Satan, les trois manœuvres, pour reprendre mon texte de Philippe d'Éphésiens, les trois manœuvres de Satan, ce sont donc de nous réduire à ce qui est seulement physique ou matériel, de faire tourner le monde, y compris un quelconque Dieu, autour de nous, et de pécher par orgueil, de nous croire les plus intéressants et les plus forts du monde. Si nous avons ces trois ficelles, il y en a peut-être d'autres, sous les yeux, nous saurons mieux faire face aux manœuvres du diable et nous saurons mieux tenir. Et comment connaître ces ficelles, ces moyens de tentation, ces points de faiblesse dans nos vies, en prenant le temps d'y réfléchir, d'être conscient de cela. C'est le même tentateur que celui de Matthieu 4 qui nous tente aujourd'hui. Qui d'entre nous pourra prétendre être aussi solide que Jésus face à ce tentateur ? Jésus a été sans faille, il a tenu. Tiendrons-nous, nous aussi? Ben, je l'espère. Soyons à l'école de notre Seigneur, dans ce domaine-là comme dans les autres. Alors, si nous voulons conserver nos acquis spirituels, la joie que nous avons, la paix que nous avons, la fraternité, l'espérance, il nous faut tenir dans ce monde, tenir bon. Et pour tenir, entretenons-nous. Entretenons notre vie spirituelle, notre vie intérieure. Ne nous contentons pas de quelques petits exercices très, très superficiels. Parfois, pour se garder en bonne santé, il faut accepter que le médecin nous dise « Vous devez marcher une demi-heure par jour. » Et si je marche simplement du salon à la salle de bain, ça ne suffit pas. Il faut faire plus. Spirituellement, c'est pareil. Le Seigneur nous dit « Mais il faut faire de l'exercice pour tenir dans ce monde. » Pour entretenir notre vie spirituelle, prenons soin d'elle comme de notre corps. Mais comment faire ? Je vous ai dit qu'il fallait, mais comment faire ? Deuxième grande question de mon propos de ce matin. Pourquoi nous fortifier ? Voilà ce que Paul nous disait. Maintenant, comment nous fortifier ? Notre texte, le verset 10 seulement, « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine », alors nous dit qu'il y a une ressource. D'ailleurs, certaines traductions, je crois que c'est la Bible en français courant, j'en suis même sûr, dit « Puisez vos forces dans le Seigneur ». Donc on comprend, mais qu'est-ce que ça veut dire « Puisez vos forces dans le Seigneur » finalement ? Demain, je fais comment pour puiser mes forces dans le Seigneur ? Ça marche comment ? Il est où le bouton ? Il est où le médicament à prendre, la nourriture à avaler ? Qu'est-ce que je dois faire ? Puisez vos forces dans le Seigneur. Se fortifier par sa force souveraine. Oui, j'ai compris, nous l'avons chanté ce matin, Dieu est puissant. Mais comment moi je vais faire pour profiter de sa puissance dans ma vie ? En quoi la puissance de Dieu nous donne-t-elle des forces à nous ? Allez, je vais de nouveau regarder un petit peu ce que l'apôtre Paul écrit. Et puis je lis au verset 13. « Prenez donc toutes les armes de Dieu » et après avoir tout mis en œuvre, pardon, je me suis trompé de ligne. Oui, prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans les jours mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon, saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là nous aurions des moyens de nous fortifier. Ceci dit, quand Dieu nous équipe, parce que là il est question d'un équipement, ce n'est pas comme dans une salle de sport. Alors c'est des salles que je ne fréquente pas. Je fréquente la piscine. Une fois, j'avais besoin d'un bonnet de bain, je crois, quelque chose. Parce que même moi, des fois, on me demande des bonnets de bain. Vous vous rendez compte double peine. Mais c'est pas parce que j'aurai un bon bonnet de bain que je vais mieux nager. Vous imaginez, non, ça marche pas. Ou le bon maillot de bain et hop, on nage deux fois plus vite. C'est pas parce que vous aurez un super t-shirt fourni par la salle de sport que vous jouerez mieux au volley. Si vous êtes nul en volley, même avec le t-shirt de l'équipe de Mulhouse, féminine championne de France 2017, vous jouerez pas mieux. C'est pas parce que j'aurai des nouvelles baskets super que je courrai plus vite. Donc quand Dieu nous équipe, quand il était question de prendre tout ce matériel, les chaussures, le bouclier, le casque, c'est pas juste des gadgets, ça va être des choses ça va être de l'équipement et de l'entraînement intérieur. La panoplie divine, elle est intérieure. Ce n'est pas des choses que je vais acheter, c'est pas des choses que je vais prendre et ne pas savoir m'en servir. C'est autant de l'équipement que de l'entraînement. Brièvement, je vais les passer en revue. La vérité, tout d'abord. Pour être fortifié par Dieu, car je fais cette lecture de la panoplie sous le verset 10, qui commençait le raisonnement, soyez fortifiés, eh bien, pour être fortifié, je vais prendre la vérité pour ceinture. Je ne vais pas me laisser engoncer par des doctrines diverses et variées, des religions sans valeur, des usages et des coutumes sans fondement, sans vérité. Le principe de la ceinture, c'est de relever les vêtements pour pouvoir marcher plus vite, pour pouvoir courir, ne pas être gêné. La vérité nous libère de tout ce qui nous engonce, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Cette notion de la liberté qui libère, elle est présente dans d'autres textes que celui que nous avons là. Elle nous permet de marcher avec un comportement éclairé, sincère et véritable. Si tu te laisses prendre par des discours captieux qui t'emprisonnent dans des comportements faux, comment vivras-tu en étant fortifié par le Seigneur ? La liberté. La justice, deuxième élément de la panoplie, la justice comme cuirasse. Pour être fortifié par Dieu, il faut se revêtir de la justice. Ne pas se laisser enchaîner par la culpabilité de nos péchés, mais demander le pardon à Dieu, vivre de sa grâce, enfant de Dieu, pardonner et aimer chaque jour, et traduire cette justice reçue par une justice vécue, une vie aussi juste que nous le pouvons. Comment seras-tu fortifié dans le Seigneur ? Si tu es trop orgueilleux pour reconnaître ton besoin de sa grâce, trop peu consciencieux pour changer tes mauvaises habitudes. Les bonnes dispositions, troisième élément de la panoplie, les bonnes dispositions que donne l'évangile de la paix. J'ai un vieux commentateur proposé le terme de l'entrain. Alors ça m'a séduit et je vous propose de garder cette idée de l'entrain. C'est un mot grec un petit peu compliqué à traduire parce qu'il est utilisé très très peu de fois dans le Nouveau Testament. Pour être fortifié par Dieu, il faut laisser la paix de l'évangile ou l'évangile de la paix produire son entrain en nous. Vous n'avez jamais eu ces matinées de printemps où vous vous levez, vous entendez les oiseaux chanter, le soleil s'est levé avant vous parce que justement les jours se raccourcissent et vous avez envie de changer le monde, vous êtes plein d'enthousiasme, vous voulez aller voir un tel, faire ceci, raccommoder cela, réparer, et finalement la journée va passer très vite tellement vous avez de l'énergie. C'est ça l'entrain que nous donne l'évangile de la paix. Le jour se lève sur nos vies, le jour de Dieu, la lumière qu'il nous donne. Es-tu aimé de Dieu ? Mets-toi debout. Ta conscience est-elle lavée et tu es en paix? Mets-toi debout. Ta place est-elle assurée dans le peuple de Dieu? Mais vas-y, mets-toi debout, aie de l'entrain. Fais-tu confiance à Dieu pour ta vie? Debout. Vis-tu avec la paix dans tes pensées, dans ton fort intérieur? Allez, fonce. Comment seras-tu fortifié par le Seigneur? Si l'évangile de Dieu, si l'évangile de la paix n'est pas pour toi quelque chose de vrai, si l'évangile est tout sauf l'évangile de la paix, l'évangile de la joie, l'évangile du courage, l'évangile de l'entrain. Alors, il y a aussi le bouclier de la foi. Pour être fortifié par Dieu, il faut lui faire confiance, tout simplement. La foi est un choix à réitérer sans cesse. De manière quotidienne, je choisis de faire confiance à Dieu, de considérer la Bible comme sa parole, de m'ouvrir à l'action de son esprit, d'accepter de lui faire confiance, même si je ne comprends pas tout, et même s'il y a des choses qui me font souffrir. Je renouvelle jour après jour ce choix de la confiance en Dieu. Je préfère utiliser ce mot que foi. Les deux sont vrais, bien sûr. C'est simplement l'idée de faire confiance à un côté moins religieux qu'avoir foi en Dieu. Peut-être ça parlera plus à certains, je n'en sais rien. Cette confiance, elle est en mouvement. Elle a ses hauts et ses bas, ses temps de certitude, ses temps de questionnement, de doute peut-être. Mais elle est là, cette confiance, chaque jour, comme un bouclier. Comment seras-tu fortifié par Dieu si tu ne nourris pas cette confiance en Dieu, cette foi en lui? Si tu laisses tes interrogations devenir des doutes et tes doutes devenir des négations. Le casque du salut ensuite, le salut. Pour être fortifié par Dieu, il faut ressentir la sécurité qu'il promet à son peuple au-delà des circonstances. Le salut, c'est d'avoir la certitude que rien ne pourra nous arracher des mains bénissantes de Dieu, pas même la mort. Que cette notion du salut mette dans nos cœurs, de manière permanente, un sentiment de sécurité, de paix, qui nous donnera des ailes dans notre position de chrétien dans ce monde. Comment seras-tu fortifié par Dieu si tu ne saisis pas à bras le corps cette sécurité des promesses de Dieu pour toi, pour nous? Si tu ne vois que les choses qui vont mal? Et enfin, dans la panoplie, il y a encore l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, nous dit le verset 17. Pour être fortifié par Dieu, il me faut lire la Bible, en nourrir mon âme, mon cœur, mes actions et ma vie. La Bible, c'est la matière première de nos enseignements. C'est la grille de lecture du monde. C'est le miroir de ma conscience. C'est la lumière sur mes choix de vie. La Bible est indispensable. Elle nous fait réfléchir à notre foi, la structure, la fonde, la remet en question. Elle propose des comportements, des réactions, des manières d'être, toutes plus profitables les unes que les autres. Comment donc seras-tu fortifié par Dieu, Éphésiens 6:10, si tu ne lis pas la Bible, sa parole pour nous, pour toi, si tu ne documentes pas ta foi, si tu ne fondes pas solidement tes choix de vie? Voilà ce que Paul répond dans ce texte à la question « comment fortifier ?». On pourrait ajouter, je l'avais gardé pour la fin, mais il me semble légitime de déjà le dire ici, la suite du texte, priez. Priez en tout temps par l'Esprit. Tout simplement, parlez à Dieu. Soyez en contact avec lui. C'est une manière de fortifier votre être intérieur. Pourquoi a-t-on du mal? Troisième question. Pourquoi a-t-on du mal à se fortifier? Bon, c'est le même mal que celui qu'on a d'aller faire du jogging. Hein. On n'a pas forcément envie, on voudrait plutôt manger une tarte au quiche. C'est beaucoup plus agréable que d'aller transpirer sur un chemin. Le problème, c'est qu'on a envie de l'avoir fait, mais on n'a pas envie de le faire. Vous voyez la nuance? Ça sent le vécu. Hein. On a le même problème du point de vue spirituel. Déjà pour les Éphésiens, pourquoi Paul doit-il dire, au reste, fortifiez-vous? On ne m'a jamais recommandé d'être paresseux. On m'a dit, surtout Jean-Marc, sois paresseux. D'une part parce que c'est pas très constructif, et d'autre part parce que en général on n'en a pas besoin de nous demander de faire les choses qu'on a envie de faire et que notre nature nous pousse à faire. Si Paul demandait aux Éphésiens de se fortifier, c'est parce que c'est pas naturel. On doit faire un effort, on doit se décider pour dire allez là je vais me fortifier, je vais me faire du bien. Peut-être que aujourd'hui tu as une image de toi dégradée, du style je suis bon à rien, j'arrive jamais à rien dans ma vie, je suis nul, je ne vaux rien. On a tous des fois ces idées-là qui sont jamais justifiées, mais elles nous prennent la tête, quoi. Et si on a été cassé, quoi, par une éducation, par des gens, des collègues, des copains de classe qui nous ont comme ça toujours rabaissés, peut-être ça va laisser une grosse cicatrice. Et il y a une petite voix qui nous dira quand on lira fortifiez-vous dans le Seigneur, il y a une petite voix qui dit ça, écoute, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour les grands, toi t'es qu'un petit. N'écoutons pas cette petite voix. Nous sommes tous sous les yeux du Seigneur. Nous pouvons tous être fortifiés par le Seigneur. Le Seigneur ne s'intéresse-t-il qu'aux grands et qu'aux super ceci et super cela? Ou s'intéresse-t-il aussi à moi, à toi? Bien sûr qu'il s'intéresse aux plus petits d'entre nous. Peut-être que nous avons une notion de l'humilité mal établie. Dans notre Église, et nous n'avons pas tort de le faire, nous insistons sur le fait que nous sommes pécheurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en prenant la Sainte Cène, nous rappelons que Jésus est venu prendre sur lui la condamnation de notre péché. Donc oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous sommes pervertis. Nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Nous sommes tellement mauvais. Et peut-être que cette idée-là, perçue de manière déséquilibrée, va nous faire oublier un autre enseignement de la parole de Dieu qui dit « Vous êtes en Jésus-Christ des êtres nouveaux, des nouvelles créatures », pour prendre la bonne vieille traduction seconde que je connais pas mal par cœur pour ce genre de texte bien connu, 2 Corinthiens 5, 17. Mais, d'accord, il a fallu que Jésus paye tes péchés, d'accord. Mais justement, s'il a payé, mais maintenant, sois autre chose que simplement un pauvre pécheur qui doit s'écraser devant Dieu. Tiens-toi debout, parce que c'est comme ça que tu honoreras ce Dieu qui t'a fait et qui t'a sauvé de tes péchés. Mets-toi debout, sois fier de son œuvre en toi. Fortifie-toi. Que l'humilité, entre guillemets, soit toujours, nous devons toujours rester humbles, mais n'oublions pas cette joie d'être des créatures nouvelles, des êtres renouvelés. Nous faisons un nouveau bâtiment en ce moment. Alors, ce sera toujours le bâtiment, nous allons toujours nous réunir dans cette salle, mais vous verrez quand on aura terminé, déjà ce sera dans l'autre sens, et puis il y aura d'autres choses, enfin... Ce sera plus la même salle, d'accord? Et on dira pas, oh ben l'Église, la bonne nouvelle, c'est, enfin, la salle, les bâtiments, il y a du parquet par terre, et puis vraiment, le parquet faisait du bruit, et puis il y avait des taches au plafond, puis il y avait deux lampes qui marchaient pas. Oui, vous aviez remarqué, pas remarqué, ben maintenant si, voilà, trop tard, il y en a deux qui marchent pas, et tout ça. On va plus dire ça, on va dire, regardez notre beau bâtiment, le sol, il est magnifique, il y a des chaises qui sont superbes. Ça ne sert plus ces chaises-là non plus, hein. Le plafond, les lampes, regardez, on va plus s'attacher à ce qui était avant, n'est-ce pas? Ben, dans notre vie chrétienne, faisons la même chose. Ne disons pas, oui, quand j'étais jeune, je faisais plein de bêtises, tout ça, comme ça, ou quand j'étais vieux aussi, d'ailleurs, enfin, peu importe. Et je me suis, le Seigneur a payé pour ça. Il a porté la culpabilité à la croix pour ça. Alors laissons ça et disons maintenant je suis quelqu'un de renouvelé, j'ai un nouveau plafond, j'ai un nouveau plancher, j'ai des nouvelles chaises, j'ai de nouvelles habitudes, j'ai des nouveaux amis, j'ai des nouvelles manières de travailler, j'ai des nouvelles manières de considérer les autres. Que l'humilité ne nous fasse pas oublier ce fameux 2 Corinthiens 5, 17. Et oui, tout en étant humble, on peut être fortifié par le Seigneur. Et à l'inverse, l'orgueil. Peut-être que nous disions, quoi? Moi, fortifié par le Seigneur? C'est gentil, c'est encore un truc de la Bible, mais moi, j'ai pas besoin. Hein. Mais je suis fort, moi. Costaud, moi. Et moi, je tiens le coup. Hein. Pas besoin qu'on m'embête avec des trucs. Je tiens le coup. Il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui dit ça. Pas vrai? On est tous orgueilleux. Alors, il y en a qui se maîtrisent mieux que d'autres. Mais c'est assez naturel. C'est l'opposé de ce que j'ai dit tout à l'heure sur une image de soi dégradée. Alors, il y en a qui ont une image d'eux-mêmes dégradée, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire largement surdimensionnée. T'es dégradé aussi, hein? Souvenons-nous, tiens, alors l'apôtre Paul, c'était quand même pas le dernier, hein. C'était un missionnaire, il a fait des choses extraordinaires, il a écrit des choses extraordinaires, Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Déjà là, pour comprendre, ça demande quelques efforts. Mais il fait l'éloge de l'humilité et il se méfie de l'orgueil comme de la peste. Donc vous voyez, on a toutes sortes de gênes devant cette phrase « fortifiez-vous », soit l'image dégradée, un genre de complexe d'infériorité, soit une humilité mal comprise qui nous dit en somme que seule la force est à Dieu, nous n'avons aucune force, soit une image de soi tellement forte, tellement haute à l'orgueil, qu'on pense qu'on n'a pas besoin de la force de Dieu. Et j'en ai peut-être oublié des gênes que nous avons devant cette phrase. Je conclue. En vous proposant de vous relever, peut-être, ceux qui font du sport, pour rappeler mon image du début, je vous laisse tranquille, l'image du début, tu fais du sport ? Tu veux t'entretenir spirituellement ? C'est très bien. Fais du sport, continue, va à la salle de sport, va dans la forêt courir, va à la piscine nager, va dans les Vosges marcher, etc. Vas-y, continue, c'est très bon, c'est vrai, c'est très bon pour la santé. Bon, je me souviens quand même qu'il y a l'apôtre Paul qui a écrit un petit truc là-dessus, qui a dit que l'exercice... corporel est utile à peu de choses. Alors, je sais, il y en a qui abusent de ça, qui disent, oh, bah tiens, tu vois, c'est comme ça, moi, j'en fais pas. Et Paul parlait à ce moment-là, en somme, de l'exercice intérieur, qui était la piété, qui, elle, était très utile. Alors, oui, faites du sport, faisons du sport, continuons. Faisons-en ensemble. À la piscine, je fais des rencontres de personnes de l'Église, c'est toujours agréable. Mais surtout, fortifions notre être intérieur. Musclons notre foi, si vous me permettez cette image. Dieu est notre entraîneur sportif, mais de l'être intérieur. Musclons notre foi. N'y voyez pas là une recherche d'une quelconque affirmation teintée de testostérone ou ce genre de choses. Mais nous avons besoin de fortifier notre foi. Souvenons-nous aussi de la prière que les disciples ont faite à Jésus. Augmente notre foi. On est conscient qu'on n'a peut-être pas assez cette confiance inébranlable, infaillible en Dieu. Prions Dieu que Dieu qu'il fasse une œuvre en nous. Et bien justement, je vous propose de prier. Seigneur, dans ce texte, il nous est dit « Priez en tout temps par l'Esprit ». Avec toutes sortes de prières et de supplications. Eh bien, Seigneur, en terminant cette lecture de l'Épître aux Éphésiens, nous te prions que nous sachions rester en communication avec toi tous les jours. Nous te prions que nous nous fortifions, que nous soyons fortifiés par toi, que nous puisions nos forces en toi, comme nous l'avons vu à la lecture de ce texte. Garde-nous des pièges, Seigneur, contre lesquels il nous faut tenir. Garde-nous aussi de nos pièges intérieurs, qui nous feraient dire que nous ne sommes pas dignes, ou nous n'avons pas besoin de nous fortifier en toi. Nous te louons, Seigneur, pour ta patience, enfin. Quand tu vois que nous avons de la peine à avancer, à nous fortifier, à recueillir auprès de toi les ressources qu'il nous faudrait avoir pour grandir. Tu es patient avec nous et nous t'en louons ensemble. Mais en même temps, Seigneur, nous ne voulons pas abuser de ta patience et nous laisser exhorter ce matin par ta parole. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen.